Et on retrouve exactement les mêmes, la même thématique, quoi. Il faut de la sécurité, donc on va organiser. On veut de l'imprévu, on veut des contacts, etc. Mais on n'est pas un troupeau. Il y a cette. Enfin, les gens qui font du tourisme alternatif, dans la mesure où ça coûte déjà peut-être aussi beaucoup plus cher, ont une tendance à vouloir se distinguer absolument du tourisme de masse. Et alors on dit on fait du tourisme intelligent, etc., etc., à thème. Bon, je veux dire, je ne vais pas revenir sur le témoignage, je crois que c'est assez clair. Peut-être qu'on peut parler d'un autre tourisme alternatif, parce que bon, c'est vrai que ce tourisme-là, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, même Kony ou d'autres grandes agences proposent ce genre de tourisme un peu différent. C'est un créneau comme un autre, quoi.
Mais bon, alors, disons que moi, je fais partie de la majorité des gens qui ont envie de partir en vacances, même que je dois dire que je reviens récemment du tiers-monde. Mais bon, alors, que faire? Que faire? Parce que ça veut dire qu'il faut renoncer à toutes les destinations en direction du tiers-monde.
Ah non, pas du tout. Non, non, il faut partir, il faut voir des pays, il faut voir des gens, il faut changer d'air, c'est bien. Je crois simplement qu'il faut déjà être attentif à tout bon, au problème que ça peut poser. Il faut un peu se responsabiliser par rapport au départ. C'est vrai que c'est toujours gênant d'acheter un voyage comme on achète un paquet de cigarettes. On va dans des pays qui ont des problèmes énormes et qu'on va s'y confronter. Et je crois, bon, la dame qu'on a entendue là, finalement, elle était très contente de son séjour, mais il y a quand même plein de gens qui reviennent avec des regrets, des remords. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux gens qui m'ont dit? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la pauvreté, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut qu'on se responsabilise, il faut qu'on apprenne un peu. Ça ne veut pas dire qu'on va y penser toute l'année pour partir un mois. Hein. Je veux dire, c'est pas du, on va pas entrer en tourisme intelligent comme on entre en religion. Mais pourquoi je choisis cette destination, comment je veux voyager, etc., etc. Les gens dans les agences peuvent être prêts à vous fabriquer un voyage comme vous l'entendez. Et puis il y a aussi des organisations de voyage qui ont été décidées par les gens dans les pays, par des personnes dans les pays du tiers-monde. Par exemple, en Asie du Sud-Est, en Thaïlande ou aux Philippines, il y a certaines personnes qui ont créé des agences et qui organisent des circuits qui sont intéressants, qui sont alors là vraiment très proches de la population. On va dans des villages, etc., etc. Donc il y a cette manière de faire. Et puis aussi, bon, quand on est si on n'a pas la chance de pouvoir utiliser ces créneaux-là de tourisme un peu différents, bon, mais essayer d'être un peu attentif, je crois, au comportement qu'on peut avoir dans ces pays.
J'aimerais revenir avant à ces tourismes un peu différents. Est-ce qu'il y aurait un
Oui.
exemple précis?
Par exemple, en Thaïlande, une personne a créé une agence qui propose des circuits dans des villages. Il se disait que son pays, c'était beaucoup de villages et qu'il fallait un peu montrer aux étrangers ce que c'était que la vie dans ces villages. Alors, c'est une agence qui occupe des bénévoles, qui est liée justement aux organisations qui travaillent sur le tourisme en Asie du Sud-Est. Et les gens peuvent font des circuits, bon, en s'arrêtant dans certains villages. Les gens du village ont été d'abord contactés pour savoir s'ils acceptaient de recevoir des touristes, etc., etc. Donc, il y a ce genre de choses en Thaïlande. Il y a aussi les villages intégrés au Sénégal qui ont été créés dans le sud du Sénégal, où dans je crois, 5 ou 6 villages, on a créé des petits hôtels, enfin, où on peut loger et qui sont pris en charge par une coopérative locale. Donc ce sont des organisations qui ont très peu à voir avec des intérêts occidentaux. Et qui sont intéressantes, je veux dire, qui peuvent être un créneau à reprendre, quoi.
Alors, il y a cette alternative au tourisme. Et puis, alors, dans l'immédiat, que faire lorsque l'on va dans le tiers-monde en individuel?
Bon, à part ça, je crois pas que c'est vraiment une alternative au tourisme, c'est quand même du tourisme. Mais quand on va en individuel ou même en groupe, parce que c'est clair qu'on ne peut pas demander à tout le monde de partir sac au dos à l'aventure. Mais je crois que c'est peut-être quelques comportements à avoir, quelques attitudes à avoir par rapport à la mendicité. Par exemple, éviter, s'il vous plaît, de donner des bonbons, distribuer des bonbons aux enfants. La mendicité, c'est vrai que c'est un problème. Et par exemple, c'est bien de voir un peu ce que font les locaux par rapport, les gens qui habitent l'endroit par rapport aux mendiants, parce que la mendicité, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Mais il y a les mendiants qui sont plutôt liés au tourisme, d'autres qui sont plus intégrés dans la vie de ces pays. Alors regardez un peu comment on fait par rapport à la par rapport aux photos, aux vidéos, etc. Ça, c'est toujours des choses qui choquent, enfin qui moi m'ont choqué. Demandez quand même aux gens avant de prendre des photos. N'essayez pas de les soudoyer avec trop d'argent. Et puis bon, par rapport à l'achat aussi des souvenirs, faites attention, comme on l'a dit, par rapport à l'environnement, de ne pas acheter des choses qui peuvent mettre en danger la flore ou la faune locale. Je crois que c'est des choses qu'on sent sur place. C'est vrai que parfois, il faudrait un peu plus de temps pour s'y arrêter. Mais c'est aussi une attitude générale. C'est vrai qu'on est dans ces pays, qu'on est de passage, qu'on a une image, que les gens ont une image de nous qui est celle de gens riches, etc. Donc, il faut essayer de négocier avec ça, essayer d'être un peu respectueux. Je crois qu'il suffit simplement de se mettre un peu à la place des gens, quoi. Je crois que chez nous, on n'aimerait pas tellement que des gens se comportent comme ça dans nos maisons, etc. Donc, oui, être attentif. Et je crois que ça fait un meilleur voyage. Se dire, c'est pas du prêchi-prêcha. Je crois que ça nous permet d'un peu mieux voyager, peut-être de garder des souvenirs peut-être plus agréables, quoi, de ces séjours.
Donc, on peut prolonger ici encore longtemps cette réflexion sur le tourisme et le développement. Peut-être deux mots à propos de votre groupe Tourisme et Développement pour ceux et celles qui désirent approfondir cette réflexion.
Oui, alors donc on est un groupe qui est lié, nous sommes liés à la communauté de travail, donc aux organisations de développement suisse. On travaille spécifiquement sur le tourisme. Et puis, on travaille, on fait de la formation, on essaie de sensibiliser les gens et puis on essaye aussi d'entrer dans une réflexion plus globale sur le tourisme et le développement, donc d'essayer d'évaluer certains projets qui pourraient entrer dans des projets de développement et qui seraient liés au tourisme.
Et vous venez de publier une brochure « Vacances dans le tiers-monde », une brochure que l'on peut acquérir. Il suffit soit de vous écrire ou encore de nous téléphoner, nous vous donnerons les références. Puis peut-être avant de se quitter, Dominique, j'aimerais vous demander, quelle est votre prochaine destination de vacances?
Je sais pas encore. Je vais peut-être aller l'année prochaine, 3 semaines en Grèce, en famille, dans un village, en loin de maison. Donc, ça sera pas, ce sera ce genre de voyage. Et sinon, je reviens des États-Unis. Donc, c'était pas vraiment le tiers-monde.
Et puis, est-ce que justement, si on se pose de nombreuses questions sur nos destinations, est-ce qu'on peut contacter votre groupe Tourisme et Développement?
Oui. Alors, vous pouvez nous contacter de toute façon. Vous pouvez aussi contacter le service information tiers-monde à Lausanne, qui a énormément de documentation sur les pays du tiers-monde. Et là, vous pourrez. Je pense que c'est l'endroit en Suisse romande où on peut trouver le plus de choses.
Alors peut-être un numéro de téléphone, c'est celui du service information tiers-monde, le 021. La suite arrive, nous tournons frénétiquement les pages de notre agenda. Alors, 021 27 43 53. Et votre numéro de téléphone?
Alors c'est le 024 41 35 44.
Dominique Malestra, merci. Yeah.
Oh.
C'était Toto Bisanté de la musique haïtienne. On reste encore dans le tiers-monde. On essaye de rêver malgré les quelques réflexions des fois pessimistes que nous avons faites avec Ofra Hara, une femme du Yémen.
Your
C'était Ima Sumac, une voix péruvienne, un morceau quelque peu étonnant de sa part, mais intéressant à découvrir. Vous êtes toujours à l'écoute de Ménage-toi sur Radio Zone 93.8. Nous revenons de terre lointaine pour voir ce qu'il y a à faire chez nous. C'est Ménage-toi du temps. Aujourd'hui, pour aller au cinéma, Alain Tanner présente Myriam Mézières dans La flamme dans le cœur. Ce sera le sujet d'aujourd'hui.
Je sais que l'amour physique est censé se... Je sais, mais si je l'avais su... Attends, je ne serais pas hélas au point où tu m'as connu. Je t'aime et toi-même... non plus. À dire vrai, il y en a pas des masses de belles histoires de cul. Je t'aime, mais toi-même, dis-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi si même cela n'est pas vrai.
Aujourd'hui, pour Ménage-toi du temps et aller au cinéma, nous allons parler du film La flamme dans mon cœur, un film d'Alain Tanner qui nous présente Myriam Mézières, puisque c'est Myriam Mézières qui a fait le scénario de ce film. J'ai proposé à Tina de venir discuter avec moi de ce film. Elle l'a vu à Locarno, elle a eu l'occasion de rencontrer Myriam Mézières, et elle est elle-même cinéaste, et ça m'intéressait beaucoup de savoir ce qu'elle, comme créatrice aussi, pouvait penser de ce film.